Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidounia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Tchad, le ministre de la Sécurité publique interdit les manifestations d'étudiants sur l'ensemble du territoire national.
République démocratique du Congo, une responsable de l'ONU estime nécessaire une enquête indépendante sur les récentes violences en RDC.
Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a prêté serment hier pour un nouveau mandat de 7 ans.
Paris ne ménagera aucun effort pour éviter à la Libye le sort de la Syrie, assure François Hollande.
Shimon Peres, l'ancien premier ministre israélien et prix Nobel de la paix, est décédé à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Tchad, poursuite des manifestations de rue des étudiants à N'Djamena et à Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi, au sud de la capitale, ils protestent contre la suppression de leur bourse d'études par le gouvernement. Hier, la police nationale a procédé à quelques arrestations, dont celle du président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Barka Leroy. Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir, a décidé d'interdire toutes les manifestations d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Au cours d'un point de presse, le chargé des affaires culturelles et de communication de l'UNET, Haroun Mahmoud Idriss, a exigé la libération de ses condisciples et maintenu le mot d'ordre de marche lancé pour ce mercredi.
C'est avec un grand regret que le Bureau national de l'UNET informe l'opinion nationale et internationale de l'arrestation des membres du Bureau national, notamment le président national, les chargés des affaires académiques, les EG des sections de N'Djamena, ainsi que quelques étudiants. Cette arrestation confirme la volonté manifeste du gouvernement de faire taire les étudiants tchadiens dans leurs revendications légitimes. Par cet acte non justifié, le gouvernement vient confirmer sa volonté de passer en force sur sa mesure de suppression de la bourse d'études dans notre pays. Le Bureau national de l'UNED dit ceci. Tout dialogue avec le gouvernement est suspendu jusqu'à la libération de nos collègues. La marche nationale de l'UNED prévue mercredi 28 septembre 2016 est bel et bien maintenue sur l'ensemble du territoire national. Nous précisons que la marche est à caractère constitutionnel et que le Tchad n'est pas en état d'urgence pour l'interdire. Par conséquent, l'arrêté du ministre interdisant la marche n'est pas juridiquement soutenable. Le Bureau national de l'UNED met en garde les autorités de tout empêchement de regroupement ou de dispersion violente des étudiants. Le Bureau national informe aux écoles privées, secondaires comme maternelles, instituts et autres structures de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national, qui ne sera pas responsable de tout ce qui pourrait les arriver s'ils ouvrent leur établissement demain.
Haroun Mahmoud Idriss, chargé des affaires culturelles et de communication de l'UNET.
Une enquête indépendante sur les récentes violences en République démocratique du Congo est nécessaire pour éviter une aggravation de la crise, a déclaré hier à Genève une responsable des Nations Unies. Le point avec Nani Talani.
Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme Kate Gilmore, une enquête indépendante, transparente et crédible est nécessaire pour traduire en justice les auteurs et les instigateurs des violences à Kinshasa les 19 et 20 septembre dernier. Entre 32 et 100 personnes ont été tuées en marge d'une manifestation de l'opposition à 3 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. D'après Kate Gilmore, le bilan est de 49 civils tués et 127 blessés, semble-t-il, par la garde républicaine, l'armée et la police. 4 policiers ont également été tués. Kate Gilmore appelle tous les protagonistes à faire preuve de volonté politique pour éviter une aggravation de la situation. Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice et des Droits Humains, a assuré hier à Genève qu'il n'est pas question de violer la Constitution, que l'élection sera organisée et la date sera arrêtée en coopération avec les organismes internationaux, dont les Nations Unies.
Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a prêté serment hier pour un nouveau mandat de 7 ans. Quelques chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie au palais présidentiel en bordure de mer. Le point avec notre correspondant à Libreville, Jean Revis Dabani.
Je jure de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit et d'être juste envers tous, je le jure.
Ces mots ont été récités par Ali Bongo, 57 ans, devant la Cour constitutionnelle au palais de la présidence de la République. Main droite levée vers le drapeau vert jaune-bleu du Gabon et main gauche sur la Constitution. Pour saluer son investiture, des coups de canon ont été entendus près du palais présidentiel où se déroulait la cérémonie. Auparavant, Marie-Madeleine Borantio, présidente de la Cour constitutionnelle, a rappelé la décision des 9 juges proclamant vainqueur Ali Bongo. Les chefs d'État du Mali, du Niger, du Togo et de Sao Tomé assistaient à la prestation de serment, ainsi que les premiers ministres du Sénégal, du Tchad, du Congo, de la Centrafrique et du Maroc. La France était représentée par son ambassadeur à Libreville, tout comme les États-Unis. Juste après avoir prêté serment, le chef de l'État a ensuite prononcé une allocution devant les corps constitués du Gabon. Bongo a appelé les anciens candidats à la présidentielle de se joindre à lui pour, je cite, construire un Gabon nouveau. Dans la salle, 4 des 10 candidats à la présidentielle y avaient pris part. Mais pas Jean-Pierre, qui dénonce toujours la victoire de Bongo. Libreville, Jean-Revis Dalani, VOA Afrique.
Le nord-ouest de la République centrafricaine en proie depuis plusieurs jours à des violences qui auraient déjà fait plus d'une dizaine de morts et des milliers de déplacés. Le point avec Freeman Sipila Bangui.
Plusieurs localités de la préfecture de Lompindé sont passées ces jours-ci sous le contrôle des hommes du général Sidiki, un chef rebelle peul originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est la commune de Dégol qui est visée par une attaque de ces hommes armés. Les détonations des armes lourdes et légères ont obligé plusieurs centaines de familles à fuir vers la ville de Bokaranga, située à 40 km de Dégol. Pourquoi cette flambée de violence? Les autorités locales expliquent que le général Sidiki assure avoir reçu l'aval de Bangui pour sécuriser la région du Nord-Ouest. Propos formellement démentis par Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique. Joint au téléphone par VOA Afrique, le général Sidiki parle d'une opération de ses hommes pour sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux régulièrement menacés par des miliciens anti-Balaka. Ces nouvelles violences condamnées par Bangui auraient déjà fait une dizaine de morts, de nombreuses habitations incendiées et des milliers de déplacés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'ONU a déploré hier le nouveau report des élections en Somalie, mais a estimé que cela pouvait être nécessaire pour organiser des scrutins transparents et crédibles. Les précisions de John Lyndon.
Le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdou Salam Omer, a assuré le Conseil de sécurité de la volonté de Mogadiscio de respecter à la lettre le nouveau calendrier. Selon lui, le gouvernement fédéral a la ferme volonté de tenir un processus électoral crédible et inclusif en 2016. La Somalie a annoncé le report des élections en raison de problèmes administratifs et de sécurité. Les législatives se tiendront entre le 23 octobre et le 10 novembre et la présidentielle au plus tard, le 30 novembre. Ce nouveau retard fait naître deux craintes, que le processus soit manipulé et qu'il y ait de nouveaux retards en cascade, a déclaré Michael Keating, représentant spécial de l'ONU en Somalie. La Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute en 1991 du régime du président Siad Barré.
Le président François Hollande a assuré hier que la France ne ménagera aucun effort pour soutenir le gouvernement d'union nationale en Libye, notamment dans sa lutte contre le terrorisme. Pour M. Hollande, ce pays, la Libye, ne doit pas connaître le sort de la Syrie où Alep, notamment, est le théâtre d'un massacre, a-t-il dit. Le président français s'exprimait devant la presse à l'Élysée aux côtés du premier ministre libyen Fayez al-Sarraj en visite à Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président et premier ministre israélien Shimon Peres, prix Nobel de la paix en 1994, est mort à l'âge de 93 ans, deux semaines après avoir été victime d'une attaque cérébrale. Jean-Roger Bion.
Ce vétéran de la politique israélienne est décédé ce mercredi matin près de Tel Aviv, où il avait été hospitalisé à la suite d'un AVC et placé dans un coma artificiel le 13 septembre dernier. Shimon Peres avait été l'un des artisans des accords de paix intérimaires d'Oslo, conclus avec les Palestiniens en 1993. Avec Shimon Peres disparaît une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Engagé dans la vie politique avant la naissance de l'État juif, ce vétéran a participé à 12 gouvernements et a été premier ministre à deux reprises. En 1994, il partageait le prix Nobel de la paix avec l'ex-premier ministre Yitzhak Rabin, son rival et partenaire travailliste, et le palestinien Yasser Arafat. Le président américain Barack Obama a salué la mémoire de l'ancien président israélien Shimon Peres, soulignant qu'il n'avait jamais cessé de croire en la possibilité de la paix.
En Syrie, l'armée gouvernementale a pris le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep après plusieurs jours d'intenses bombardements aériens. Ces raids ont fait de nombreux morts et provoqué l'indignation des pays occidentaux.
Ici, aux États-Unis, l'auteur présumé de l'attentat dans le quartier de Chelsea à New York le 17 septembre semble avoir été un élément isolé, sans connexion avec un quelconque mouvement extrémiste. C'est ce qu'a déclaré hier le directeur du FBI, James Comey, devant la commission de la sécurité intérieure du Sénat américain. L'attentat avait fait 29 blessés légers à New York. Son auteur, Ahmad Khan Rahami, 28 ans, a été arrêté dans le New Jersey par la police deux jours après l'explosion. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho.
L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial pour 2016, prévenant qu'il s'agira de la plus lente depuis la crise financière. L'OMC prévoit une croissance de l'ordre de 1,7% cette année, bien moins que les 2,8% prévus en avril. La cause, c'est le ralentissement de la croissance du PIB et du commerce dans les économies en développement telles que la Chine et le Brésil, mais aussi en Amérique du Nord. La prévision pour 2017 a aussi été révisée à la baisse. La Banque africaine de développement va apporter 4,1 milliards de dollars au Nigeria en 2016 et 2017 pour relancer son économie, entrée en récession et plombée par la dépendance au pétrole, a annoncé le président de la banque, Akinyumi Adesina. Un premier prêt d'un milliard de dollars sera présenté au conseil d'administration de la banque dans un mois. La réunion des pays producteurs de pétrole prévue à Alger mercredi a peu de chances de déboucher sur un accord pour geler la production et faire remonter les prix en raison des divergences entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux puissances rivales du Moyen-Orient risquent de bloquer un accord comme cela avait été le cas à Doha en avril. Un accord pourrait toutefois être trouvé lors de la prochaine réunion de l'OPEP le 30 novembre à Vienne.
Les sports à présent avec Timothée Donangmaï. La Ligue des champions en Europe ce mardi.
Match nul, 2 buts partout entre Dortmund et Real Madrid. Sporting s'est imposé 2-0 face à Legia Varsovie. Match nul entre Monaco et Leverkusen, 1 but partout. Victoire de Tottenham face à CSKA à Moscou, 1-0. Leicester, champion anglais en titre, accueillait Porto et s'est imposé 1-0. Copenhague a battu Bruges 3-0. Lyon s'est déplacé à Séville en l'absence de son buteur vedette, Alexandre Lacazette, 1-0 pour les Espagnols. Et puis le Juve s'est imposé 4-0 à Zagreb face au Dynamo.
Stéphane Cessignon veut se relancer à Montpellier.
Après 5 saisons passées en Angleterre, l'international béninois s'est engagé avec Montpellier. Ancien joueur de West Bromwich Albion en Angleterre, le joueur de 32 ans retrouve ainsi la Ligue 1 5 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain.
Chris Bosh à Miami, c'est probablement terminé, selon le président du Heat.
Nous avons le sentiment que la carrière de Chris Bosh au Heat est probablement terminée. Le président de la franchise NBA de Miami, Pat Riley, a reconnu lundi qu'il ne comptait plus sur sa vedette, toujours indisponible pour raison médicale. Cette déclaration intervient 3 jours après que Bosh, 32 ans, ait sélectionné 11 fois pour le All-Star Game, a passé la visite médicale de début de saison qui n'a pas permis de lui donner le feu vert pour son retour sur les parquets. L'ailier fort n'est plus apparu en NBA depuis le 9 février 2016. Le double champion NBA 2012-2013 a disputé 53 matchs la saison dernière avec des moyennes de 19,1 points et 7,1 rebonds en 33,5 minutes par jeu. Il était devenu le pilier de l'équipe après les départs de LeBron James pour Cleveland en 2014 et de Dwayne Wade pour Chicago en juillet.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Mali doit prendre ses responsabilités afin de faciliter l'application de l'accord de paix et de réconciliation. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis à Bamako. Selon Paul Formsby, le gouvernement malien doit aller au-delà de l'adoption de lois et de la mise en place de commissions pour se concentrer sur l'extension de son autorité sur l'ensemble du territoire malien. Les autorités doivent également mettre fin à tout lien, à la fois public et privé, avec le Gatia, un groupe de milices armées qui, je cite, « ne contribue pas à ramener la paix dans le nord du Mali ». L'ambassadeur américain au Mali donnait hier, ce mardi donc 27 septembre, une conférence de presse à Bamako. Kassim Traoré y a assisté.
Cette conférence de presse se tient au lendemain de la session spéciale aux Nations Unies sur la crise malienne. Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, son pays a des positions sans ambiguïté. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Le gouvernement du Mali doit assumer une plus grande responsabilité pour la mise en œuvre du processus de paix. L'accord de paix exige que certaines mesures de base de renforcer de la confiance soient prises immédiatement. Le gouvernement malien doit aller au-delà de l'adoption de lois et de mise en place des commissions et de se concentrer sur l'extension de son autorité sur l'ensemble du Mali.
Le gouvernement du Mali doit prendre son rôle de leadership afin que la crise puisse connaître son épilogue. Mais cela ne peut se faire tant que les groupes armés continuent avec la violence.
Nous avons dit à tous les groupes armés, tous les groupes, Gatia, HCUA, tout doit arrêter les actes de violence, les actes de terrorisme. S'ils ont des liens au terrorisme, comme le HCUA, comme le Gatia, ils doivent arrêter. Ça, c'est notre message à tous les groupes. Ça, tous les actes de violence doivent arrêter. Il y a la possibilité d'avoir la paix maintenant.
Parlant de la situation à Kidal, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dira que les choses se compliquent de jour en jour.
Maintenant, il n'existe pas un aéroport à Kidal. C'est incroyable, non? Incroyable. Si nous voulons avoir l'école à Kidal, pas d'école. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes avec les groupes armés à Kidal. Ça doit arrêter. Nous avons besoin de la présence du gouvernement du Mali sur le terrain à Kidal, non? Le gouvernement du Mali doit être là. Le gouvernement du Mali est le propriétaire de cette défi. Nous voulons que le gouvernement du Mali est là pour, comme notre partenaire. Nous avons un agent pour les écoles à Kidal. Mais si le gouvernement n'est pas là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Très peu.
Le dernier sujet abordé au cours de cette conférence de presse est la présidentielle aux États-Unis. Cette année, l'ambassade des États-Unis au Mali veut innover.
Peu importe qui gagnera l'élection le 8 novembre, ce sera une élection historique. Je prévois d'organiser un événement avec des journalistes maliens plus tard c'est moi, si pour discuter de l'un des débats présidentiels américains et l'ambassadeur organisera un certain nombre d'événements tout au long de la saison des élections américaines, y compris un petit déjeuner au moment du compte des votes le lendemain de l'élection.
Cette conférence de presse est le début d'une série qui va se poursuivre autour de la présidentielle aux États-Unis, prévue pour le 8 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Tchad, plusieurs anciens membres de Boko Haram ont fait défection. Ils ont regagné leur pays la semaine dernière au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du lac Adoum Forte, une zone considérée comme porte d'entrée de Boko Haram. Correspondance d'André Kotmanjingar à N'Djamena.
Ils sont une soixantaine, dont trois femmes, tous originaires de la région du lac, à abandonner leur explosif pour regagner la légalité. Ce ralliement alimente les débats dans les milieux sociaux professionnels. Pour beaucoup de Tchadiens, Boko Haram n'est pas un mouvement politico-militaire pour décider de déposer les armes et faire la paix avec le gouvernement. Analyse du politologue et constitutionnaliste, professeur Ahmad Mahamad Hassan.
Ce ralliement veut dire tout simplement que Boko Haram ne se retrouve pas dans ses centres d'opérations. Il n'arrive pas à avoir une base, je veux dire, processus de ralliement et de recrutement. Il y a une désaffection de la part de la jeunesse qui ne croit plus à l'action Boko Haram et à la philosophie de Boko Haram dans le cadre d'une certaine instauration de l'État islamique, d'un certain nombre de luttes contre les mécréants, etc., etc. L'élément central, c'est que la jeunesse tchadienne ne s'est pas appropriée de la philosophie Boko Haram. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Pour les ADH, Association pour la défense des droits de l'homme, ce ralliement est une plaisanterie de mauvais goût. Banadi Boguel Purus en est le vice-président.
Est-ce que c'est un ralliement stratégique? Ça, nous émettons encore de réserve compte tenu du fait que c'est des personnes qui ont été endoctrinées et qui ne vont pas tout de suite changer d'avis. S'ils le font maintenant, est-ce que ce n'est pas une façon d'infiltrer pour avoir un maximum d'informations et faire ensuite des attentats? À ce niveau, nous demandons au gouvernement d'être vigilant et prudent pour ne pas qu'il y ait encore des pertes en vies humaines. Le fait de regagner le bercail est une chose, mais le fait que les autres ont perdu les leurs en est une autre et il va falloir que justice soit rendue à ceux qui ont perdu les leurs.
Le gouverneur de la région du lac Adam Forte rassure l'opinion nationale en ces termes.
Leur sécurité à elle-même, c'est garanti parce qu'on est obligé de mettre un dispositif sécuritaire pour également faire comprendre à la population que ces gens-là, on ne va pas les laisser à ceux qui, même s'ils ont de mauvaises intentions, de faire quelque chose effectivement. Donc ils sont bien logés, bien restaurés. Les services de renseignement vont continuer à faire les auditions afin qu'on puisse voir quelles sont vraiment les intentions réelles.
Compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette zone, la région du lac est toujours sous le régime de l'état d'urgence instauré depuis novembre 2015. Et c'est dans ce cafouillage que quelques éléments de Boko Haram retranchés dans les îles abandonnées du lac ont fait un éclat. Ils ont eu un accrochage avec l'armée tchadienne le week-end dernier à Kaïga, à la frontière nigérienne. Bilan, 4 morts et 6 blessés côté tchadien et 7 éléments de Boko Haram ont été tués selon le service de sécurité. André Kodumadjingar, à l'est du Tchad, pour VOA Afrique.
Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Une trentaine de ressortissants mauritaniens ont saisi l'occasion de la tenue de la 71e Assemblée générale de l'ONU pour manifester contre la situation dans leur pays qui, selon eux, n'a pas évolué depuis des années. Ils accusent les dirigeants mauritaniens d'exactions contre les négro-mauritaniens et de marginalisation de ce groupe, et ils estiment que l'action internationale n'a pas porté fruit jusqu'ici. Bakary Tandja est leur porte-parole.
Nous avons 13 de nos leaders de l'IRA qui sont actuellement emprisonnés parce que tout simplement, ils ont eu le courage de confronter le régime esclavagiste et raciste de la Mauritanie. Un exemple, tous ceux qui sont actuellement en prison ont été accusés de flagrant délit. Et comment on peut engager la procédure de flagrant délit pour des personnes qui ont été arrêtées calmement chez eux et qui n'ont été associées ni de près ni de loin les événements que le gouvernement a évoqués.
Alors, vous êtes en train de manifester ici en face de l'ONU. Qu'attendez-vous au juste?
C'est un podium international. C'est un devoir moral pour nous d'être ici, de saisir ce podium international pour faire passer le message aux leaders du monde qui sont en train de se réunir. Bon, nous savons que notre leader, Biram, a reçu le prix des Nations Unies des droits de l'homme en 2013. Bon, nous savons que les Nations Unies ont envoyé 4 rapporteurs spéciaux en Mauritanie qui ont fait le tableau des droits de l'homme en Mauritanie. Et cette année, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, quand il a été en Mauritanie, il a évoqué d'une manière directe et franche le problème.
En clair, la communauté internationale s'intéresse à la situation en Mauritanie.
Absolument, absolument, absolument. La preuve en est que j'ai cité les 4 rapporteurs spéciaux qui ont été envoyés en Mauritanie. Le fait d'avoir donné le prix des Nations Unies à Biram, le président de l'IRA, dont l'organisation jusqu'à présent n'a pas encore été reconnue. Bon, ça, c'est un soutien manifeste de la communauté internationale à travers les Nations Unies. Au moment où Ban Ki-moon est en train de passer la torche au prochain secrétaire général, nous sommes ici aussi pour rappeler que c'est très important que le nouveau secrétaire général continue dans la même logique et même fait plus. Parce qu'au lieu de faire des rapports, nous voulons des actions concrètes. Parce que le gouvernement est têtu et ils veulent continuer à maintenir la même situation, ce qui est inacceptable.
C'était au micro de Timothée Donangmaï, Bakary Tandja, porte-parole des ressortissants mauritaniens qui ont récemment manifesté devant le siège de l'ONU à New York. Présidentielle américaine, au lendemain d'un débat tendu, Hillary Clinton et Donald Trump sont repartis en campagne vers des états clés de l'élection de novembre. La candidate démocrate est apparue très en forme après ce duel télévisé qui l'a remise en selle face au candidat républicain. Et les deux adversaires, Jacques Aristide, n'ont pas manqué de se lancer de nouvelles piques.
Oui, la course relancée et les mots assassins également. Madame Clinton a ouvert le bal. Tout le monde a pu voir son attitude, son tempérament, son comportement sur le plateau. Et les gens ont pu en tirer leurs conclusions, a-t-elle dit tout sourire, dans l'avion qui l'emmenait en Caroline du Nord. Elle s'est félicitée d'avoir vécu un très grand moment lundi soir, surtout qu'elle a pu, d'après elle, exposer le programme sans véritable proposition de son adversaire. Visiblement ravie, elle n'a pas hésité à faire de l'ironie sur Donald Trump, qu'il avait accusé de manquer d'énergie et s'était plaint, après le débat, d'avoir eu un mauvais micro. « Si on se plaint du micro, c'est qu'on n'a pas passé une bonne soirée », a lancé Madame Clinton. Le président de son équipe de campagne, John Podesta, en rajoute une couche en disant qu'avec cette tendance à renifler, à boire plein d'eau et à cligner les paupières, il a semblé vraiment en manque de carburant. Chaque camp crie victoire, mais avec plus de conviction chez Hillary Clinton, qui a montré après sa pneumonie et deux semaines de quasi-absence qu'elle était en pleine forme et n'avait rien perdu de sa vigueur, le républicain n'ayant pas réussi à la déstabiliser.
Et Jacques, la réaction de Kellyanne Conway, la directrice de campagne de Donald Trump, ne s'est pas fait attendre non plus.
Manque de carburant ? Quel manque de carburant ? Madame Conway s'est plutôt félicitée que son patron ait été poli et un gentleman à l'égard de son adversaire, notamment à la fin lorsqu'il a retenu le plus grand des coups possibles, dit-elle. Donald Trump a en effet annoncé sur scène qu'il avait finalement décidé de ne pas dire quelque chose d'extrêmement dur contre Hillary et sa famille, une allusion aux frasques sexuelles de Bill Clinton. Il a semblé sur la défensive hier, promettant sur Fox News que la prochaine fois, il cognerait plus fort. Lors du débat, le milliardaire ancien organisateur de Miss Univers est tombé dans un piège tendu par la candidate qui lui a rappelé ses critiques de la gagnante du concours 1996 parce qu'elle avait pris du poids. Trump, la qualifiant de Miss Piggy, comprenait la cochonne. Au lieu d'ignorer la polémique, Donald Trump est revenu à la charge hier, affirmant sur Fox que l'ancienne Miss avait beaucoup grossi et que, selon lui, c'était un vrai problème.
Les prétendants à la succession de Barack Obama sont donc retournés dans des États qui peuvent faire basculer l'élection.
Oui, la Caroline du Nord, où Hillary Clinton a tenu un meeting hier en capitalisant sur le duel télévisé, suivi par des dizaines de millions d'électeurs. Idem pour Donald Trump, qui lui s'est rendu en Floride. Ce sont deux grands États où ils sont au coude à coude. L'objectif reste de convaincre les Américains, qui sont indécis à 42 jours du scrutin. Les sondages montraient auparavant un resserrement de la course, Hillary Clinton recueillant 43% des intentions de vote contre 41,5% pour Donald Trump, selon la moyenne calculée par le site Real Clear Politics. Et pour terminer, Barack Obama, sur un tweet, invite les Américains à s'inscrire sur les listes électorales, car d'après lui, la politique, ce n'est pas l'art du spectacle.
Dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation politique au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la victoire d'Ali Bongo, réinvesti à la tête du pays pour un deuxième septennat consécutif. Son rival Jean Ping conteste toujours cette élection, se considérant comme l'élu. Comment le président gabonais pourra-t-il réconcilier un pays divisé par des violences post-électorales ? Quel avenir pour l'opposition ? La communauté internationale aurait-elle pu s'impliquer davantage ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.